Arcania, Chloé Morand-Bridé.
Jacques Lavergne.
Bonjour.
Bonjour.
Arcania, l'émission résiliente. La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde. Extrait du journal d'Anne Frank.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors une émission au cours de laquelle nous allons commencer par nous transporter chez nos amis et concitoyens ultramarins pour parler de ces fameuses sargasses qui empoisonnent leur vie, prendre des nouvelles du monde grâce aux brèves de Chloé Morand-Bridé, dite ici CMEB, et aborder la première partie d'une très délicate question, la pollution induite par le numérique. Vous savez tout, on peut démarrer. Juste après avoir que je vous ai donné une citation, notre avenir est une course entre la puissance croissante de notre technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utiliserons. Et c'est de Stephen Hawking, je ne vous demanderai pas qui c'est, tout le monde le sait ici, j'espère, je regarde, mais il y a des yeux grands ouverts. Nous en parlerons hors micro. Allons donc commencer par parler des sargasses. C'est un problème qui revient. Alors, les Antilles, les pauvres, ils ont eu la chlordécone et puis maintenant les sargasses et puis quelques autres petites choses entre-temps. L'apparition de ce phénomène daterait de 2011 et ça affecte toute la région caribéenne, des îles des petites et grandes Antilles jusqu'aux côtes mexicaines. Alors, ces territoires sont régulièrement touchés par des chouements d'algues qui s'échelonnent généralement de février à octobre et qui défigurent les plages. Et la saison 2022 apparemment a démarré très fort puisque des nappes de végétaux arrivent en continu depuis le début de l'année, générant des accumulations importantes. Depuis fin avril, les quantités sont de plus en plus significatives. Et le problème vient de ce que cela provoque, puisque ces tapis d'algues qui étouffent lentement la mangrove étouffent aussi les hommes. Hein, les causes précises de la prolifération de ces plantes flottantes dans les zones tropicales de l'océan Atlantique ne sont pas très, très bien comprises. Il y a des hypothèses diverses et variées, changement climatique, apport de nutriments liés à la déforestation ou peut-être même l'activité agricole en Amazonie, mais tout ça n'a pas été définitivement prouvé ni arrêté. Toutefois, les nuisances causées par les algues en décomposition sur le littoral sont-elles bien connues puisqu'elles libèrent de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré, H2S pour les connaisseurs, de gaz toxiques qui incommodent fortement les riverains. On parle de relents nauséabonds, on parle de vomissements et puis une corrosion accélérée des surfaces métalliques, de la robinetterie, des appareillages électriques, etc. Et pour parler de cette question, ben nous sommes avec quelqu'un qui l'a vécu, qui l'a connu. Vous l'avez entendu déjà sur cette antenne dans l'émission Cap Cap, c'est Caroline Chemarin. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Voilà, il y a un petit temps de décalage parce que Caroline n'est bien sûr pas en studio, elle est à l'étranger, un étranger qui n'est pas très loin, mais quand même. Alors Caroline Chemarin, vous êtes toujours enseignante, mais vous avez été en poste à la Martinique, si je me souviens bien, et donc vous avez eu à connaître de ce phénomène particulièrement pénalisant.
Ah oui, puisque j'habitais sur la côte Est, et que sur la côte Est, on est aux premières loges quand elles arrivent.
Alors comment ça se manifeste? Elles arrivent, qu'est-ce qu'on voit quand elles arrivent? Elles arrivent portées par les courants, j'imagine.
Alors elles arrivent par vagues, effectivement, mais vous avez tout dit en fait. Hein. Elles arrivent par vagues et elles changent de couleur en fonction de leur toxicité et de leur état. Donc quand elles arrivent, certains les appellent les marées dorées. C'est vrai que, bon, bizarrement, paradoxalement, c'est assez joli sous le soleil. Donc ce sont des marées dorées, orangées, et puis au fur et à mesure qu'elles s'entassent sur le sable, elles perdent, petit à petit elles meurent, puis elles se désagrègent, et c'est là qu'elles deviennent un problème réel pour les riverains. Dans l'eau, elles sont déjà un problème, puisqu'en fait elles emprisonnent les bateaux, elles font une espèce de côte de maille sur la mer, mais bon, moi n'ayant pas de bateau, ce que j'ai surtout perçu, c'était les nuisances qu'elle causait une fois arrivée et échouée sur le sable.
Alors, ces nuisances qui sont... est-ce que ça s'arrête à la nuisance? Est-ce que le terme de nuisance suffit? Ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça provoque sur les locaux? Est-ce que ça provoque des maladies? Est-ce que ça provoque des caractères urticants ou autre chose?
Oui, alors nuisance, j'étais effectivement très gentille. C'est dangereux, réellement dangereux. Donc, pour les choses les moins graves, nous, on riait souvent, parce que bon, il faut bien essayer d'en rire. Les particules dans l'air étaient particulièrement élevées. Le piano jouait faux. Et le piano, c'était surtout les choses qui étaient moins visibles. Mais de toute façon, ça finit par être visible. Mal à la gorge, envie de tousser. Et puis, une espèce d'énervement latent. Au début, je pensais que ça n'était pas forcément lié, mais quand même, en faisant des recherches, le changement d'attitude, le système nerveux affecté, l'agitation, la diminution des capacités à réfléchir, ce sont des choses qui reviennent en cas d'exposition de longue durée, et d'exposition chronique. Or, ça, effectivement, je l'ai observé. De même qu'après, le fait que des enfants pouvaient se trouver mal quand ils étaient en sport un peu trop près du rivage, ou quand on faisait des sorties, enfin, en habitant près de la mer, c'est vrai que le collège lui-même était auprès de la mer, donc l'exposition était là. Donc les climatisations noires, les boiseries noires, et puis l'odeur et la fatigue.
Il semblerait qu'aujourd'hui, on ne sache pas se protéger de ce phénomène, on ne sache pas l'éradiquer.
Non, alors on attend des choses. Là où j'habitais, donc vraiment au Robert, c'est-à-dire vraiment nord-est, assez impacté, puisqu'en plus c'est une baie, donc on récupère et elle stagne. Donc au Robert, comme ça devenait véritablement invivable, surtout dans le quartier de Pondichéry, la mairie a fait installer des barrages flottants. Donc les barrages flottants ne font que réduire l'arrivée des sargasses, mais c'était déjà énorme, puisque de fait, elles ne se désagrégeaient pas. Et en ne se désagrégeant pas, elles ne provoquaient pas le sulfure d'hydrogène, l'ammoniac et après l'arsenic, etc., qu'elles avaient accumulé. Donc au départ, le fait de les arrêter, on a trouvé ça déjà pas mal. On a essayé de trouver des solutions, alors pas nous, hein. Beaucoup de gens ont essayé de trouver des solutions, puisqu'autrefois, les grandes personnes, comme on dit aux Antilles, les récupéraient pour mettre sur les plantes, mais on s'est rendu compte qu'à long terme, ça n'était pas viable, puisque ce sont des algues qui fixent les métaux lourds et l'arsenic. Or, c'est une non-solution, parce que si on a à la fois sulfure d'hydrogène, ammoniac, cadmium et arsenic, ça redevient problématique. Donc l'alimentation animale, on a oublié. Les engrais, on a oublié. Et aujourd'hui, en fait, on essaie encore, parce que bon, je suis de loin, mes amis sont là-bas, hein, on essaie encore de valoriser la sargasse. De nouvelles idées sont venues, par exemple la fabrication de carton, ou l'étude des sargasses, puisqu'elles, comme elles accumulent l'arsenic, on s'est dit que c'était peut-être une bonne chose de les étudier pour voir quelle est la molécule qui peut servir de nettoyeur, entre guillemets.
Alors vous savez, Caroline Chemarin, pardon, je vous interromps, mais nous avons aussi en France nos sargasses, et notamment en Bretagne, puisque oui. Nous avons la préfecture vient d'installer sur les plages de Bretagne des capteurs pour connaître la quantité d'hydrogène sulfuré, donc toujours cet H2S, oui. Que l'on va respirer sur les plages, tout simplement parce qu'elles sont envahies par des laitues de mer. Alors je ne pense pas qu'on soit dans le même, c'est pas la même bestiole, mais les laitues de mer, effectivement, ont une tendance à se désagréger, à émettre des effluves nauséabondes, ça s'appelle des ulves hein, d'ailleurs. Et nous avons eu en Bretagne des morts. Il y a eu un conducteur de tractopelle qui est mort, il y a eu un jogger, il y a eu un cheval, deux chiens et 36 sangliers. Donc c'est ça, oui. C'est quand même quelque chose d'extrêmement problématique. Et il paraîtrait que l'année 2022 sera un grand millésime à ce niveau-là. Alors il y a eu 3 plans de lutte contre la prolifération des algues vertes et les millions d'euros déversés depuis 2009 n'ont pas empêché cette malédiction des ulves, puisque c'est leur nom, de perdurer. Donc ça veut dire que nos amis ultramarins ne sont pas en bonne situation, on n'est pas en meilleure situation. Par contre, nous, on sait d'où ça vient, puisque l'État est extrêmement, on va dire, coulant avec les élevages industriels qui balancent des déjections farcies d'azote et de nigres et de nitrates qui engraissent ces fameuses zulfes, sachant que la Bretagne concentre 50% des élevages de cochons français et 20% des volailles tricolores et qu'aucun ministre de l'Agriculture n'a pris la moindre mesure pour réduire ce cheptel. Et bien évidemment, vous imaginez que les syndicats agricoles ont fait les pressions qu'il faut. Ce n'est pas tout à fait la même problématique pour les sargasses quand même.
Non, enfin non. En fait, j'en sais rien. Moi, ce que j'avais lu aussi était lié à l'agriculture, mais à l'agriculture du coup internationale et non plus nationale. Ouais. Et ça met en place des enjeux géopolitiques beaucoup plus complexes, puisque finalement, nous ne faisions dans cette étude-là hein, que recevoir des choses qui venaient de plus haut. Mais notre système oui. de consommation finalement favorise aussi une agriculture à grande échelle mondiale et on finit par tomber sur le serpent qui se mord la queue.
Mais globalement, ce que l'on sait, ce dont on peut être sûr, même si on cherche quelle était véritablement la source, que c'est quand même l'activité humaine, l'activité de l'homme qui les provoque. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Changement climatique, c'est l'homme qui le provoque. L'apport de nutriments liés à la déforestation, on sait d'où ça vient. Ou tout simplement l'activité agricole, on retombe sur le même problème français. Je voulais qu'on fasse un point là-dessus. Et merci, Caroline Chebarin, de nous avoir apporté votre témoignage. Alors, on est évidemment solidaires de nos amis bretons et solidaires de nos amis martiniquais et guadeloupéens, même si nous ne pouvons pas grand-chose pour eux. En espérant que le gouvernement va un peu se secouer et trouver des solutions, mettre en place quelque chose qui protège les uns et les autres. Merci Caroline
merci.
Chemarin, à bientôt
merci
certainement.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, un petit point sur les sargasses et puis sur les ulves bretonnes. Vous voyez que nous sommes toujours en train, par notre activité frénétique, de dérégler la planète, jointe bien sûr activité à une certaine cécité, même si on connaît les problèmes. Apparemment, on n'a pas tellement envie de les régler. Alors, on fait un petit tour du monde avec vous, Chloé Morand-Bridet, quelques brèves.
Tout à fait. Alors, commençons cette série de brèves par une bonne nouvelle qui nous vient tout droit de nos institutions. La fin de la vente de voitures neuves thermiques d'ici 2035 a été votée par le Parlement européen. Ça fait maintenant une petite semaine aujourd'hui, donc le mercredi 8 juin dernier, suite à une journée mouvementée au Parlement, les eurodéputés ont donc voté 339 voix pour et 249 contre la fin de la vente des véhicules essence, diesel et hybride d'ici une dizaine d'années. Plusieurs députés déclarent que cette législation signe le début d'une nouvelle ère, celle de la neutralité climat. C'était à l'occasion du Fit for 55, mais alors qu'est-ce que c'est ? Le Fit for 55 est une sorte de feuille de route de l'Union européenne qui a pour objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans le cadre d'une Green New Deal européen. Pour rappel, le Green New Deal, qui peut se traduire par « nouvelle donne verte » ou « pacte vert », c'est un ensemble de projets visant à répondre aux grands enjeux environnementaux et climatiques, tout en promouvant la justice sociale. Donc concrètement, ça veut dire qu'à partir de 2035, nous serons voués à l'électrique. Et d'ailleurs, vous avez votre opinion sur cette question, Jacques.
Oui, enfin, j'ai passé une opinion, je m'interroge beaucoup parce que effectivement, l'électrique, c'est parfait, à part qu'il y a une batterie, à part qu'il faut stocker de l'électricité, à part que le poids des batteries est assez considérable, ce qui induit une débauche d'énergie, que ces batteries sont équipées de terres rares très pénalisante pour l'environnement à extraire, qui nous vient la plupart du temps de la Chine. Donc il y a aussi là un problème d'indépendance. Et puis après, c'est la question de savoir d'où vient l'électricité qui va faire fonctionner les voitures. Si elle vient du gaz ou du charbon, c'est pas mieux. On n'a pas résolu le problème. On l'a même aggravé d'ailleurs, parce que compte tenu des autres problèmes que je soulignais, l'addition de tout ça fait que la voiture électrique peut être pire que la voiture à moteur thermique. Donc on a encore beaucoup de questions à régler avant de s'auto-féliciter.
Et ça n'était pas gagné, car dans cette même journée, les députés ont refusé le texte sur la réforme du marché carbone. Ce dernier prévoyait entre autres la suppression des quotas gratuits et la création d'une taxe carbone aux frontières. La version finale incluait des compromis beaucoup moins ambitieux que ceux obtenus en commission environnement. Il a donc été rejeté par les Verts, les Socialists and Democrats, dit SND, et la gauche radicale.
Et l'accent bravo.
Et même par l'extrême droite, mais pas pour les mêmes raisons, vous vous en doutez.
Une deuxième brève, le sommet de la Terre qui fête ses 50 ans, c'est ça, et qui dit faisons une pause collective.
Et oui, à peu près dans les mêmes jours que donc, cette décision de cette législation, le sommet de la Terre avait bien fêté ses 50 ans à Stockholm. Ce sommet avait en effet vu le jour en 1972 dans la même ville, dans le but de la préservation et de l'amélioration de l'environnement humain. Organisé par les Nations Unies, cet anniversaire se caractérise par un renouveau avec la nouvelle communauté internationale dont on attend beaucoup de choses en ces temps si particuliers et une réunion internationale appelée Stockholm plus 50, une planète saine pour la prospérité de tous, notre responsabilité, notre opportunité. Les membres de cette assemblée ont pu aborder le besoin urgent d'action pour parvenir à une planète saine et à la prospérité, la reprise durable et inclusive avec la pandémie de coronavirus et l'accélération de la mise en œuvre de la dimension environnementale du développement durable. Alors, en dehors des experts scientifiques habitués de ce genre de sommet, des militants écologistes ont fait le choix d'y participer. Comme Laure Marine Viujard, représentante de la Jeunesse du Monde pour la Justice Climatique, une ONG créée par des jeunes des îles Pacifiques. Mais ce n'est pas le cas de Greta Thunberg, que vous appréciez d'ailleurs, Jacques, qui a d'ailleurs mis son grain de sel. Selon elle, l'organisation de ce sommet anniversaire à Stockholm est sans objet, car il n'a rien à célébrer.
Donc quoi, elle n'a pas tort, parce qu'il n'y a rien qui, dans le paysage environnemental actuel et sur toute la planète, nous permette de nous auto-congratuler, comme je disais tout à l'heure, donc effectivement. Alors après, les jeunes, les vieux, je crois qu'on est tous quand même dans le même bateau, alors que les jeunes soient moteurs, c'est vraiment très bien. Je pense que tout le monde doit se mobiliser si on veut arriver à un résultat. Alors quel bilan on peut tirer, Chloé, de ce sixième sommet de la Terre ?
Eh bien, rien de bien concluant, Jacques. Aucun engagement contraignant n'a été pris par les participants, alors que de nombreux signes alarmants ont été décelés lors de ce même rassemblement, comme le fait que le niveau de CO2 est le plus élevé sur Terre depuis 4 millions d'années, ou que l'Inde et le Pakistan connaissent actuellement des chaleurs caniculaires battant tous les records. Sur ces bonnes nouvelles, on se retrouve en 2032 pour le prochain sommet de la Terre.
Et nous le commenterons bien sûr tous les deux à ce même micro, Chloé.
Bien sûr.
Allez, la planification écolo, qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Eh bien, il ne faut pas se décourager parce que maintenant, on va voir comment faire une bonne planification écologique. Dans sa lettre hebdomadaire « Chaleur humaine », le journal Le Monde nous explique comment un pays peut réussir sa planification écologique en réaction avec les récentes promesses d'Emmanuel Macron sur le climat avec 5 conseils. Cette analyse a été réalisée par l'économiste Benoît Leguet, dirigeant d'un centre de recherche spécialisé dans les politiques climatiques. Alors d'abord, il faut faire un rétro-planning, qui consiste donc à planifier les différentes étapes pour avancer de façon organisée dans notre but de transition énergétique. Ensuite, il faut penser la transition. On entend par là qu'aucun secteur ne doit être épargné. Les progrès doivent se faire de manière coordonnée entre ces différents secteurs. Donner un cap clair est également primordial. Ici, c'est la capacité à mener cette transition de la première ministre Elisabeth Borne, chargée de la planification écologique et anciennement ministre chargée de la transition écologique et solidaire entre juillet 2019 et juillet 2020, qui est questionnée.
On rappelle peut-être un précédent épisode d'Arcadia, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire.
Tout à fait, on avait questionné la même capacité de ses acolytes Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, lors de la précédente émission. On nous dit également qu'il faut planifier dans un monde qui chauffe, c'est-à-dire mener toute cette transition qui entend de sortir du pétrole, du gaz et du charbon dans un monde déjà bien attaqué par le changement climatique. Et enfin, selon l'expert Benoît Leguet, il faut embarquer tout le monde. Il s'agit donc d'accorder la planification écologique et la démocratie. Et en effet, cette question est un vaste débat qui divise beaucoup.
Voilà, autrement dit, où nous anticiperons et nous ferons la chose de façon démocratique. Ou alors elle s'imposera à nous parce qu'on n'aura plus le choix. Et là, j'ai peur que la démocratie n'ait plus grand-chose à dire. On souffle un peu sur toutes ces nouvelles. Allez. Pour les digérer. Première pause musicale, Chloé. Est-ce qu'on écoute ?
On écoute Watch de Billie Eilish. My heart skips eight beats at once. If we were meant to be, we would have been by now. See what you wanna see, but all I see is him right now. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out.
Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me. But I'll never let you back to put it out.
Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Arcania. On est de retour et Jacques va maintenant nous parler du sujet principal, la pollution numérique.
Voilà, ce sera une première partie parce que le sujet est extrêmement vaste, un sujet que j'ai travaillé avec notamment Guillaume Pitron, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, on va parler d'un outil, ce n'est qu'un outil, mais qui nous est devenu totalement indispensable, qui est complètement incorporé à notre vie quotidienne, à tel point que l'on en use et en abuse sans se poser aucune question quant à ces modalités de fonctionnement, modalités sur lesquelles courent beaucoup de fausses conceptions et d'idées toutes faites, et je dois avouer que les miennes étaient à peu près de ce tabac-là jusqu'à ce que je travaille cette question, parce que ces idées toutes faites sont en général absolument fausses. Je veux parler bien évidemment de tout ce qui touche au numérique et à Internet, un vaste monde technique dont je voudrais vous brosser à grands traits le paysage, et je vous donnerai bien sûr tout à l'heure quelques pistes pour creuser le sujet si l'envie vous en prend.
Vous allez donc nous parler de dématérialisation.
Tout à fait, Chloé, je vais vous parler de dématérialisation et de techniques qui, pour la plupart d'entre nous, sont considérées comme indolores, incolores et quasiment éthérées. Enfin, ce que l'on essaie de nous faire croire, parce qu'en fait de dématérialisation, mais il n'y a rien de plus matériel qu'Internet, qui constitue certainement une des plus importantes entreprises de matérialisation jamais entreprise par l'homme. Et tout cela pour aller toujours plus vite, pour nous plonger dans une ère d'immédiateté où tout va circuler, s'échanger à la vitesse de la lumière, un monde gorgé d'informations, de données, de data, comme l'on dit, qui croisent de façon exponentielle et qui se répandent sur la planète entière en colonisant ses moindres recoins et qui génèrent un considérable impact matériel.
C'est-à-dire, vous voulez dire que le numérique n'a pas pour effet de protéger l'environnement ou du moins de le ménager ?
Eh bien, j'aurais bien aimé qu'il en fût ainsi, mais hélas, ce n'est pas, mais vraiment pas le cas. Le digital est à l'origine d'une pollution tout à fait considérable et qui croît dans des proportions extrêmement rapides. Cette industrie aujourd'hui à l'échelle mondiale consomme surtout un volume d'eau et de matériaux et d'énergie considérable, à tel point que si l'on essaye de la quantifier, on arrive à la conclusion que son empreinte digitale, l'empreinte digitale du numérique mondial, est le triple de celle de grands pays tels par exemple la France ou l'Angleterre. Sachez que 10% de l'électricité mondiale lui est consacrée et que le rejet de ses émissions de CO2 atteint 24% des émissions globales de ce gaz, soit presque le double que celles émises par le secteur aérien mondial. C'est tout à fait énorme et pour tout dire, cette pollution digitale met la transition écologique en péril. Ce qui revient à dire que nous avons un immense défi qui nous est lancé, dont on ne sait pas aujourd'hui comment l'humanité va s'en débrouiller.
Oui, d'ailleurs, les jeunes sont actifs sur la question du climat et très adeptes du numérique. Et ils vont certainement être en mesure de proposer des solutions, non ?
Alors oui, enfin, on l'espère tous, mais théoriquement, effectivement, ce seront eux les mieux placés. À ceci près que ce que l'on appelle la génération climat, donc la génération d'à peu près tous ceux qui sont dans ce studio, moi excepté, est complètement asservie aux outils numériques, moi aussi d'ailleurs, hein, soyons francs. Et en plus, ce sont ces mêmes jeunes qui par ailleurs mènent de très beaux combats écologiques, qui renouvellent le plus fréquemment leurs équipements numériques et engendrent plus de la moitié de la pollution du secteur. À telle enseigne d'ailleurs que cette génération climat sera à l'horizon 2025 l'un des principaux acteurs du doublement de la consommation d'électricité du secteur numérique. Et en plus de cela, un autre problème pointe à l'horizon, c'est pas le seul, mais il y en a beaucoup. En se rendant dépendant du numérique et en voyant en lui un instrument de connaissance, voire d'émancipation, les jeunes, et puis je rajoute les moins jeunes parce que je me mets dedans, se mettent entre les mains de ces nouveaux maîtres que sont les GAFAM, j'ai pas besoin de vous dire ce que sont les GAFAM, et quelques autres d'ailleurs qui mènent subliminalement le jeu. Donc inutile de se prétendre vegan ou locavore ou je ne sais quoi d'autre, comme beaucoup le font. Quand ton empreinte numérique explose véritablement, il faut bien être conscient, le numérique, dans sa configuration actuelle, les choses peuvent évoluer, n'est absolument pas mis au service du climat et de la planète, au contraire même, Chloé.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jacques, comment le numérique, qui paraît parfaitement anodin, parvient à générer une pollution considérable ?
Alors, on va essayer de dresser un tableau rapide de cette question, si vous voulez bien. Je vous donnerai en fin de référence, en fin d'émission, pardon, des références bibliographiques, on pourrait y revenir. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, je traiterai de ce sujet en deux parties, une première cette semaine, une deuxième la semaine prochaine, parce que effectivement, c'est extrêmement vaste. Alors, pour revenir à votre question, fabriquer des matériels destinés au numérique, alors ce sont les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, nécessite différents minerais, dont par exemple le graphite, dont la Chine produit 70% essentiellement dans la région du Heilongjiang, pardon en prononciation, mais je ne suis pas un locuteur chinois. C'est un minerai incorporé dans les batteries, de fameuses batteries de voitures dont on parlait tout à l'heure, mais là on est sur celle de ces engins numériques, en raison de ses qualités de conductivité électrique qui effectivement sont éminentes. Et il existe à peu près 2 grammes par batterie. Vous voyez, c'est quand même pas énorme. Mais cette industrie extractive est extrêmement polluante pour l'environnement et donc pour les humains, par voie de conséquence, ne serait-ce que parce que les poussières de graphite contiennent de l'acide fluorhydrique qui est un puissant et mortel. Puissant et mortel à terme, c'est un corrosif extrêmement toxique. Et je vous renvoie à notre émission Arcania consacrée il y a quelques semaines, c'est pas si vieux, aux terres rares, vous vous en souvenez peut-être. Sachez simplement qu'un smartphone, ce que nous avons tous là, on en a plusieurs sur les tables, contient une cinquantaine de matières premières. Une cinquantaine de matières premières, vous voyez la chose. Or, lithium, magnésium, silicium, brome, etc. Quand vous savez qu'il y aurait en circulation dans le monde 34 milliards de téléphones, tablettes et autres ordinateurs, vous mesurez l'étendue du problème. Et pour mieux prendre conscience du bond technologique effectué ces dernières années, mais à quel prix écologique, à quel prix, retenez, ça c'est assez stupéfiant, qu'un seul smartphone est aujourd'hui plus puissant que l'ensemble des systèmes informatiques ayant envoyé l'homme sur la Lune.
Effectivement, ça donne à réfléchir. Et en plus, Jacques, si je vous ai bien suivi, pour faire marcher ce système, il y a nécessairement d'autres équipements sophistiqués qui, eux, doivent aussi consommer des matériaux divers et variés.
Alors, si c'est tout à fait cela, Internet induit que tous les réseaux de communication, alors il y a les câbles, les routeurs, les bornes Wi-Fi, je vous en parlerai la semaine prochaine, et les centres de stockage des données, ces fameux data centers qui permettent aux objets connectés de communiquer entre eux, tout cela nécessite une gigantesque infrastructure qui siphonne une part croissante des ressources terrestres. 12,5% de la production mondiale de cuivre, notamment, et 7% de celle d'aluminium. Bon, l'aluminium, ce n'est pas quelque chose de forcément rare, ce sont des matériaux abondants, mais tout ça est destiné aux TIC. Alors, on entend des particules, bien sûr, technologie de l'information et de la communication. Le numérique engloutit une large part de la production mondiale de métaux tels que le palladium, 15%, l'argent, 23%, 40% du tantal, 41% de l'antimoine, 42% du béryllium, 70% du ruthénium, 70% du gallium, 87% du germanium et même 88% du terbium. La liste n'est pas exhaustive et ces noms un peu qui ne chantent pas forcément à nos oreilles parce qu'on n'a pas l'habitude, mais je crois vous les avoir déjà cités dans l'émission sur les métaux rares. Donc on est devant une ingénierie d'une folle complexité, vous l'avez compris, qui est extrêmement énergivore. Et sachez que la seule fabrication d'un de ces engins est responsable de près de la moitié de l'empreinte environnementale et de 80% de l'ensemble de la dépense énergétique durant son cycle de vie. Donc il s'agit toujours pareil, hein, des ordinateurs, téléphones et tablettes. Par exemple. Pourquoi faut-il conserver son téléphone ? Moi, j'ai un vieux téléphone tout cassé, là, qui est tombé 10 000 fois. Eh bien, tout simplement parce que le 80% de la dépense énergétique pour le fabriquer se produit au cours de sa fabrication. Si vous prenez un iPhone 12 Pro de la fameuse marque Apple, ce chiffre peut même atteindre 86% durant construction qui se produit en plus, on y reviendra dans un certain nombre de pays. Donc, quand vous avez dit, Chloé, tout à l'heure, dématérialisation, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas plus matériel que tout ce dont on parle.
Et pourtant, lorsqu'on regarde des pubs ou qu'on écoute les discours des fabricants, on a l'impression que tout est simple et propre.
Ah oui, c'est vrai, ça c'est un peu fait exprès, hein. Ils ont tout fait pour dissimuler la matérialité du digital. L'impression, j'employais tout à l'heure le vieil adjectif déterré, effectivement, c'est pas dans les terres, non, c'est on a vraiment les pieds sur terre. Alors, perfection esthétique, vous l'avez vu, on fait de la com là-dessus, design affiné, épuré, et puis tout ça veut dire que finalement, comment ce qui est beau pourrait-il être sale, hein ? Magie de la publicité, du marketing, de la communication. Enfin, quand je dis magie, on devrait plutôt parler d'enfumage, hein, puisque des milliards de personnes sont convaincues grâce à M. Steve Jobs et ses équipes que le numérique est indolore pour la planète. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas tout à fait ça, qu'on est loin de la réalité. Comme le dit un spécialiste du numérique que j'ai déjà cité, Guillaume Pitron, et j'ouvre les guillemets, dématérialiser, c'est matérialiser autrement.
Vous nous le disiez tout à l'heure, Jacques, il faut conserver ses équipements numériques le plus longtemps possible pour ménager la planète. Mais cela devient de plus en plus difficile, en raison notamment de l'évolution des technologies, d'un besoin de fonctionnalités toujours plus complexes et énergivores, mais surtout aussi parce que tous ces engins ont une fâcheuse tendance à ne plus fonctionner au bout d'un certain temps.
Et oui, alors là, vous mettez le doigt, Chloé, sur un gros problème, hein, qui est autrement appelé obsolescence programmée. Aujourd'hui, la durée de vie d'un ordinateur est passée, alors je me réfère là au livre blanc du numérique et environnement, donc la durée de vie est passée de 11 ans à 4 ans seulement en 30 ans. Et vous savez que cette tendance ne touche pas que les ordinateurs, mais aujourd'hui nous parlons du numérique, mais ça concerne à peu près tous les engins qui fonctionnent ainsi. Vous avez donc cette tendance extrêmement gênante qui fait que nous sommes des colossaux producteurs de déchets, de détritus, mais de détritus de plus en plus sophistiqués. Et même pour faire une aparté, nos corps contiennent parfois des déchets électroniques, implants cérébraux, organes artificiels, etc. Pourrait même ajouter à la liste de ce qu'on conserve, de ce que contiennent nos corps, divers produits chimiques, dont la présence fait que nos corps n'intéressent plus les vers et les bactéries qui se refusent à les boulotter et que la décomposition de certains corps ne parvient plus à se faire. Il y a déjà des articles allemands là-dessus absolument intéressants. On voit qu'on ne peut plus faire de réduction de corps puisqu'il n'y a pas eu de dégradation. Mais on s'égare, on va revenir au sujet. À cette obsolescence programmée se rajoute le fait que tous ces produits sont conçus spécifiquement par leurs fabricants, et ça c'est une volonté, pour ne pas être réparés. Donc le propriétaire que nous sommes d'un téléphone est bien détenteur légitimement de l'objet matériel, mais il n'y a pas que ça là-dedans, il ne détient qu'une licence sur le logiciel, et sans logiciel ça ne fonctionne pas, et chaque licence lui interdit de toucher au cœur du réacteur, donc nous sommes totalement ficelés.
On en parlera rarement, mais chaque téléphone contient des puces électroniques. Qu'en est-il de leur fabrication ?
Ah ça, c'est les puces, c'est une vaste question là aussi, hein. Puces ou autrement appelées circuits intégrés, c'est-à-dire finalement, c'est le cerveau de tous ces produits électroniques. Alors il existe peu de fabricants de ces petites merveilles. On a Samsung qui fait aussi des téléphones, Intel, Qualcomm, TSMC qui est, si je ne m'abuse, à Taïwan. ils en fabriquent 1000 milliards chaque année. Et on en trouve sur à peu près tous les équipements, téléphone bien sûr, ordinateur fusée, vous avez même sur les machines à laver ou les réfrigérateurs, je crois. C'est un produit minuscule, mais à la fabrication d'une grande complexité. Toujours pareil, 60 matières premières interviennent, alors silicium, bore, arsenic, tungstène, cuivre, qu'il faut purifier. Donc quand vous allez, moi je me suis déjà rendu professionnellement chez Intel, carrément, vous rentrez dans une salle blanche, hein, une salle d'opération, vous avez une charlotte, des petites choses au pied, vous avez tout ce qu'il faut, c'est purifié à 100%. Et pour y arriver là, il y a 500 étapes dans la chaîne de fabrication. 16 000 sous-traitants répartis dans des dizaines de pays à travers le monde. Et là, vous voyez bien qu'on est en plein dans l'exemple parfait de ce qu'est la mondialisation. Alors, par quelques exemples pour illustrer le propos. La mine de quartz, a priori, elle doit se trouver en Afrique du Sud. Les plaques de silicium sont produites au Japon. Les appareils de photolithographie viennent des Pays-Bas, qui est l'un des plus grands fabricants de pompes à vide. Il va falloir également opérer en Autriche. Les rouillements à billes sont fabriqués en Allemagne. Et pour baisser les coûts, les puces sont sans doute mises en boîtier au Vietnam. Et puis on expédie le tout au groupe, par exemple, Foscon, pour prendre celui-ci comme exemple. On va expédier tout ça en Chine pour qu'elle soit intégrée dans les iPhones. Et pour optimiser l'ensemble de ces processus, le groupe TSMC que j'évoquais tout à l'heure, utilisait dans le passé des logiciels développés par des universités italiennes et écossaises. Donc vous voyez, l'usine à gaz, c'est une logistique qui engendre une consommation d'énergie absolument monstrueuse.
Effectivement, je commence à mieux comprendre le problème. Vous avez parlé de data center tout à l'heure, Jacques. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement ?
Ben, comme son nom l'indique, c'est l'endroit où sont stockées la totalité des données qui transitent par Internet. Alors tous les smartphones et autres engins de ce type sont reliés à un data center, des fois plusieurs d'ailleurs. Ces structures sont indispensables au fonctionnement de l'ensemble. C'est un lieu, une machinerie par où tous les échanges transitent, puisque ceci ne passe pas en direct de l'appareil, d'appareil à appareil, mais il y a une connexion qui doit se faire grâce à un intermédiaire qui est le data center. Donc c'est à la fois un lieu de transit, de stockage, de traitement de l'information, une information qui arrive et qui repart. C'est une espèce de gare de triage. Et donc les hébergeurs, hein, vous les connaissez, ceux à qui nous confions nos données, qui gèrent notre flux, hébergent leurs serveurs dans de ces gigantesques hangars sophistiqués, répartis dans le monde entier. Et donc tout ce qui passe par nos portables, ça peut être les photos de votre chat, de vos vacances, votre commande de pizza, vos conversations téléphoniques, tout ce que vous pouvez imaginer d'autre, se trouve un moment ou un autre dans ces endroits. Alors, ce sont des endroits sans âme, de gigantesques préfabriqués, circuits situés discrètement à la périphérie des villes. Et comme vous pouvez le constater, celui qu'on appelle parfois le nuage, parce que c'était ce nom que l'on donne souvent, a bien les pieds sur terre grâce à des millions de ces dispositifs.
Ça doit être une gigantesque marché économique.
Ah oui, oui, là, ça, c'est quelque chose d'assez fondamental aujourd'hui et qui excite beaucoup certains entrepreneurs. C'est énorme, 124 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires avec une croissance de 7% par an. Donc il faut bien comprendre que le monde est aujourd'hui noyé sous un tsunami de data, alors environ 5 exaoctets par jour. Sachez qu'un hexaoctet correspond à 1 milliard de milliards d'octets. Je ne sais pas si vous voyez la masse fabuleuse. Donc la mémoire du monde s'accroît tous les jours de façon exponentielle et ça devient même extrêmement inquiétant. Et cette explosion entraîne des contraintes matérielles énormes. Le problème, enfin un des problèmes, parce qu'il y en a beaucoup, vous commencez à le comprendre, est par exemple que ces outils que sont les data centers doivent être en permanence réfrigérés. Il faut donc de l'eau pour permettre à de surpuissantes climatisations de fonctionner en permanence. Pour vous donner une idée, parce qu'il faut toujours essayer de rapporter ça à quelque chose que l'on peut concevoir, un centre de taille moyenne, un data center de taille moyenne, consomme jusqu'à 600 000 mètres cubes d'eau par an. Et 600 000 mètres cubes d'eau, c'est à peu près 160 piscines olympiques ou les besoins de 3 hôpitaux. c'est colossal. Et puis, on voit qu'à terme, ça va finir par devenir complètement intenable.
J'imagine qu'en plus, il faut de l'énergie pour faire fonctionner cette machinerie.
Oui, alors là aussi, autre énorme problème. Hein, les data centers sont des gros, gros consommateurs d'électricité, et notamment dans les agglomérations, ce qui en inquiète beaucoup. Ils représentent 22%, pardon, pas 20, mais 2% de la consommation électrique mondiale, ce qui est déjà gigantesque. Et au train où vont les choses, hein, vous l'avez compris, cette explosion des datas, d'ici 2030, ce chiffre pourrait être multiplié par 4 ou 5. Alors toute la question est de savoir comment est produite cette fameuse électricité. C'est comme pour les voitures électriques dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'elle est carbonée ou décarbonée ? Je vous laisse imaginer la réponse, étant donné que sur la planète, quasiment toute cette électricité est carbonée. Sachez aussi que les data centers, compte tenu de leurs contraintes de fonctionnement, comptent pour 15% des impacts environnementaux du secteur numérique. Et puis qu'ils posent d'énormes questions de choix d'emplacement, de taille, de souveraineté, voire des questions géopolitiques. Alors voilà pour cette première partie. On survole, on brosse à grands traits. Dans une seconde, je vous proposerai de poursuivre l'exploration de ce monde numérique qui, plus on avance dans son étude, se révèle quand même tout de même inquiétant. Quand je l'ai démarré, j'étais loin d'imaginer ce que j'allais découvrir, qui est très loin de ce qu'on nous sert et de la réalité que l'on peut voir à droite, à gauche. Alors on parlera de câbles, on parlera de 5G, on parlera de robots qui communiquent entre eux, ce qui accroît effectivement. Il n'y a pas que les hommes qui communiquent, il y a les robots aussi qui viennent se surajouter. Je vous expliquerai ce que sont les matrices de manipulation. Et puis on parlera aussi de démocratie parce que finalement, ça va l'impacter. Alors redisons-le, ce n'est qu'un outil, il peut produire le meilleur comme le pire et selon ce que nous déciderons d'en faire. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'être trop conscient de ce que cela peut engendrer pour notre vie quotidienne et, disons-le, pour nos démocraties. Voilà pour cette première partie, Chloé.
On se fait une petite pause musicale, peut-être ?
Oui, pourquoi pas, on en a besoin après tout ce que je viens de vous dire. Alors moi, je vous propose d'écouter quelqu'un que, ici, vous ne connaissez pas dans ce studio. Elle s'appelle Nana Mouskouri, c'est une chanteuse grecque déjà très ancienne. Et on va écouter une chanson qui s'appelle « Je chante avec toi, liberté ». Alors, en dehors des qualités vocales de la chanteuse qui sont indéniables, elle est intéressante parce qu'elle est basée sur l'heure du cœur des esclaves hébreux, hein, l'ère des esclaves de Nabucco, connu sous le nom de Vapensier, retiré du même opéra, de Giuseppe Verdi. Et les paroles sont de Pierre Delanoë et de Claude Lemaize, et ça ne nous rajeunit pas. C'était en 1981, à part moi, personne n'était né ici. Mais on va écouter « Je chante avec toi, liberté », vous verrez que le cœur des esclaves, ça va vous parler à vos oreilles. Je prie pour toi, liberté.
Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Arcania.
Voilà, sur la musique bien connue de Giuseppe Verdi, vous avez entendu La liberté de Nana Mouskouri. On refait un petit tour de brève, Chloé. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ?
Et bien là, on fait un retour sur l'actu chaude, même brûlante, puisqu'on va parler de la période caniculaire que nous traversons actuellement, et surtout nous à Toulouse d'ailleurs, et la sécheresse allant avec. Et oui, c'est officiel, nous sommes sur le chemin d'une sécheresse historique en France. On a d'abord très bien démarré avec ce mois de mai 2022 qui a été le plus chaud jamais enregistré, ce qui nous a donné le troisième printemps le plus chaud de l'histoire. Un manque de pluie accru s'est fait ressentir aussi depuis le début de cette année 2022, et ce que nous voyons à l'horizon n'est pas vraiment plus glorieux, puisqu'on peut s'attendre à un été à très haut risque selon Météo France, entre autres. Déjà 22 départements présentent un risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été.
Alors qui c'est qui va sécher le plus, Chloé ?
Et bah pour le coup, le sud-ouest, bizarrement, est assez épargné, car ces zones de sécheresse se concentrent surtout dans le sud-est du pays, le centre-ouest, si on peut dire ça comme ça, et on retrouve également l'île de France parmi eux. Jean-Michel Soubeyrou, si je me dis
Soubeyrou,
bien.
Soubeyrou, c'est un beau nom, il doit en savoir des choses, hein, s'il est parent avec la célèbre Bernadette.
Voilà, de Météo France a d'ailleurs déclaré lors d'un point presse que ce qui va se passer en juin va être essentiel. Et ça tombe bien puisqu'on est en plein dedans, donc suspense ou pas pour la suite des événements. Et comment ne pas finir cette série de brèves par une actu un peu plus en suspens, si on peut dire, celle des élections législatives. Vous le savez, vous y avez sûrement voté, le premier tour des élections législatives s'est tenu ce dimanche 10 juin. Et la coalition de la NUP, adorée par notre cher président Jacques, est arrivée en tête et est donc qualifiée au second tour. Pour rappel, la NUP, c'est la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et c'est une alliance entre les partis La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et l'EPS, et aussi le Parti Communiste, en vue de ces législatives. Leur intention était donc de fédérer la gauche pour faire barrage à l'extrême droite et à certaines décisions du parti maintenant appelé Renaissance de notre président.
Alors, toute chose que nous commenterons, Chloé, vous et moi et l'équipe de chroniqueurs, Pierre Larouille, Jean-François Mignard, la semaine prochaine dans l'émission Cap Cap, où nous expliquerons, on essayera de faire un point après le deuxième tour, puisque jusque-là, avec 52 et quelques pourcents de participation, ceux qui se trouvent en tête ou deuxième ou troisième position n'ont pas de quoi faire cocorico. Nous verrons comment va se dessiner l'Assemblée et nous parlerons de tout ça la semaine prochaine, bien sûr. Alors, cette alliance, Chloé, est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Est-ce que l'écologie peut s'en féliciter ?
Et bien en fait, ce parti porte bien entendu des valeurs d'écologie et de transition environnementale bien plus soutenues que le parti de Macron Renaissance.
Qui n'en porte quasiment aucune, donc il n'a pas de mal.
Voilà, qui est au pouvoir actuellement. En effet, dans le programme, on peut y retrouver 20 grands axes dans le chapitre sur l'écologie. La résolution la plus marquante est d'ailleurs la première étant d'inscrire dans la Constitution la règle verte qui impose de ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer, notamment en reconnaissant un statut juridique pour la nature. Et on en revient donc au jour du dépassement dont nous avions déjà parlé dans une précédente émission. Alors la partie n'est pas gagnée, hein, évidemment, mais pour l'instant, on peut presque se réjouir d'une bonne nouvelle pour l'environnement si c'était ce parti plutôt que celui de M. Macron qui arrivait en tête. Au minimum, ces sujets auront été mis sur le devant de la scène, ce qui change du débat d'entre-deux-tours des présidentielles. Et dans un contexte un peu plus politique, on pourra au moins se dire que la gauche n'est pas tout à fait morte, et l'écologie non plus, par la même occasion.
Oui, il faudrait qu'elle ne le soit pas, et effectivement, vraisemblablement, le fait qu'il n'y ait pas une majorité absolue pour le président, le fait qu'il y a à l'Assemblée des gens qui ont montré leur conscience écologique à travers leur programme, que ce soit les Verts ou le parquet LFI, on peut espérer que les débats à l'Assemblée seront un peu plus animés, que sur ces questions au moins, l'Assemblée nationale pourra peut-être se pencher en n'étant plus, comme on l'a vécu, une chambre d'enregistrement, sachant que au cours des dernières cinq années qui viennent de s'écouler, on n'a pas enregistré grand-chose en matière d'environnement. Nous arrivons, le temps passe vite, nous arrivons à la dernière rubrique de cette émission, le conseil ou les conseils que l'on peut vous donner pour aller plus loin sur les thèmes que l'on a développés, Chloé.
Alors moi, c'est un conseil un petit peu plus léger que le vôtre, probablement, Jacques. Je vais vous parler de l'animé Princesse Mononoke de Miyazaki.
Qui est-ce
Il est plutôt connu pour les gens de mon âge, donc ceux en
Merci,
studio.
Merci, vous sortirez par la fenêtre tout à l'heure.
Cet animé est sorti dans les années 2000 et je vous lis le synopsis tout de suite. Japon, 15e siècle, jadis protégé par des animaux géants, la forêt se dépeuple à cause de l'homme. Blessée par un sanglier rendu fou par les démons, la jeune guerrière Ashitaka quitte les siens et part à la recherche du dieu cerf, qui seul pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi à la tête d'une communauté de forgerons qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée Princesse Mononoke, la princesse des spectres. Alors quel est le rapport avec l'environnement, même si on l'a un peu saisi ? C'est que ce film est une véritable ode à la nature, à sa préservation, et comme on l'a compris, une critique de l'action que les hommes peuvent avoir sur elle. Voilà, donc c'est très bien foncé.
Rappelez-nous le titre.
Princesse Mononoke, il est sur Netflix d'ailleurs, sans vouloir.
Voilà, j'allais vous demander où est-ce que vous pouvez le voir, donc Netflix. Moi je vais revenir sur le thème que j'ai développé tout à l'heure, que je redévelopperai, ou que je continuerai à développer la semaine prochaine, le numérique. Alors si vous voulez en lire un peu plus, je vous conseille très chaudement, c'est le cas de le dire en cette époque, le très travaillé, renseigné et absolument passionnant livre de Guillaume Pitron qui s'appelle « L'enfer numérique, voyage au bout d'un laïc ». Ça se trouve au Lien qui libère, très belle maison d'édition. Donc Guillaume Pitron, on a déjà parlé que quand on évoquait les terres rares, les métaux rares, c'est un journaliste, c'est un auteur de documentaires. Vous pouvez voir ses docus sur Arte, ils sont absolument superbes. Je vous conseille également le livre de Christine Browes, « La matérialité à l'ère digitale », sous-titré « L'humain connecté à la matière », que vous pourrez trouver aux presses universitaires de Grenoble. Également de Florence Rodin chez les éditions EMS, « La nouvelle religion du numérique ». Il y en a pas mal d'autres, mais enfin, déjà, si vous avez lu cela, vous allez comprendre ce qui a attiré notre attention dans cette émission. Et dont nous reparlerons, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine. Et puis TTSO, vous savez, qui est un quotidien numérique, et oui, on y passe tous par le numérique, a intitulé sa dernière rubrique, je crois que c'était hier, « Ça va être chaud », en nous disant qu'on ne parle pas de la campagne, mais bien des températures qui pourront atteindre 40 degrés cette semaine. Donc je rejoins, Chloé, ce que vous disiez tout à l'heure. 40 degrés dans le sud de la France, 34 degrés à Paris, vaut mieux aller à Paris qu'au bord de la mer. On rappelle les projections du GIEC, hein, durant la période 1850-1900, le monde connaissait l'épisode de chaleur extrême, entre guillemets, tous les 50 ans, à plus d'un degré demi de réchauffement, qui est l'objectif visé, vous le savez, mais qui sera difficilement atteignable, puisque pour l'instant nous sommes sur une trajectoire de 2,7 degrés. On sera à 9, voire 14 méga-canicules, c'est-à-dire 3 années sur 4. Donc l'avenir n'est pas forcément rose. Sachez quand même que dans les villes, la climatisation qui permet à beaucoup de vivre un peu mieux entraîne déjà une augmentation des températures de 1 à 1,5 degrés versus les campagnes et que le nombre de climatiseurs devrait être multiplié par 3,5 d'ici 2050, ça va être chaud les enfants. Et puis pour finir, un conseil et une recommandation qui n'ont strictement rien à voir avec l'environnement, ce sera samedi 18 juin donc de cette semaine à 20h30 à l'église de Rouffiac-Tolosan, vous aurez un concert exceptionnel avec des jeunes, donc il faut toujours suivre les jeunes, et ceux-là, Dieu sait qu'ils sont talentueux, et notamment Constant Després qui sera au piano, j'ai eu le plaisir de le recevoir dans ce studio, il est très jeune, c'est un prodige, il rentre au Conservatoire de Paris, vous aurez Claire Bouissou qui sera soprano, qui donc chantera, et Baptiste Donadio au violon alto, alors c'est assez rare ce type de configuration avec un pianiste, un alto et une soprano. Ce sera un concert exceptionnel. Ils sont tous les trois diplômés du Conservatoire de Toulouse. On aura Chopin, Rossini, Kurt Weill, Brahms, Vaughan Williams. Donc n'hésitez pas à y aller. Je suis persuadé que vous passerez une excellente soirée. Ils sont jeunes, ils ont besoin qu'on les pousse, qu'on les soutienne. Ils sont brillants, encore une fois. Samedi 18 juin, 20h30, à l'église de Rouffiac-Tolosan. Voilà, c'était Arcania, une émission de Chloé Morand-Bridé et de Jacques Lavergne. À la réalisation, on avait l'équipe des arènes, dont Victor qui tenait les manettes et Tiphaine Lemen qui le surveillait derrière son épaule. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt, et ce très bientôt, ce sera la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Arcania. Belle journée
à toutes et à tous.
Bonne semaine.